Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 13. Louis XIV. Le long règne de Louis XIV, plus d'un demi-siècle, qui ne commence vraiment qu'à la mort de Mazarin, a un trait principal dominant, une tranquillité complète à l'intérieur. Désormais, et jusqu'à 1789, c'est-à-dire pendant 130 années, quatre générations humaines, s'en sera fini de ces troubles et de ces séditions, de ces guerres civiles dont le retour incessant désole jusque-là notre histoire. Ce calme prolongé, joint à l'absence des invasions, rend compte du haut degré de civilisation et de richesse auquel la France parvint. L'ordre au-dedans, la sécurité au-dehors, ce sont les conditions idéales de la prospérité. La France en a remercié celui qu'elle appela le grand roi par une sorte d'adoration qui a duré longtemps après lui. Voltaire, avec son siècle de Louis XIV, est, dans le même état d'esprit que les contemporains des années qui suivirent 1660. Il souligne, comme le fait qu'il a le plus frappé, et qui est aussi le plus frappant, tout fut tranquille sous son règne. Le soleil de Louis XIV illuminera le règne de Louis XV, et ce n'est que plus tard encore, après 15 ans du règne de Louis XVI, que le charme sera rompu, que nous entrerons dans un nouveau cycle de révolution. Avec Louis XIV, le roi règne et gouverne. La monarchie est autoritaire. C'est ce que souhaitent les Français. Puisqu'ils ne veulent ni des ligues, ni des frondes, ni du ministériat, le gouvernement personnel du roi est l'unique solution. Dès que l'idée du jeune souverain fut comprise, elle fut populaire, elle fut acclamée. De là, ce concert de louanges que la littérature nous a transmis, cet enthousiasme, qui étonne quelquefois, chez les esprits les plus libres et les plus fiers, et qu'on prend à tort pour de la flatterie. La France, comme sous Henri IV, s'épanouit de bonheur dans cette réaction. Sous toutes ses formes, dans tous les domaines, elle aima, elle exalta l'ordre et ce qui assure l'ordre, l'autorité. Du comédien Molière à l'évêque Bossuet, il n'y eut qu'une voix. C'est ainsi que dans cette seconde partie du XVIIe siècle, la monarchie eut un prestige qu'elle n'avait jamais atteint. L'originalité de Louis XIV est d'avoir raisonné son cas et compris comme pas un les circonstances dans lesquelles son règne s'était ouvert et qui lui donnait en France un crédit illimité. Il l'a dit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin. En homme qui avait vu beaucoup de choses, la Fronde, les révolutions d'Angleterre et de Hollande, il y a des périodes où des accidents extraordinaires font sentir au peuple l'utilité du commandement. Tant que tout prospère dans un État, on peut oublier les biens infinis que produit la royauté et envier seulement ceux qu'elle possède. L'homme, naturellement ambitieux et orgueilleux, ne trouve jamais en lui-même pourquoi un autre lui doit commander jusqu'à ce que son besoin propre le lui fasse sentir. Mais ce besoin même, aussitôt qu'il a un remède constant et réglé, la coutume le lui rend insensible. Ainsi, Louis XIV avait prévu que le mouvement qui rendait la monarchie plus puissante qu'elle n'avait jamais été ne serait pas éternel, que des temps reviendraient où le besoin de liberté serait le plus fort. Désiré en 1661 pour sa bienfaisance, l'autorité apparaîtra comme une tyrannie en 1789. Déjà sur la fin de son règne, Louis XIV a pu s'apercevoir que la France se lassait de ce qu'elle avait appelé et salué avec enthousiasme et reconnaissance. Il avait prévu cette fatigue, annoncé ce retour du pendule. Et par là, il a été meilleur connaisseur des hommes que ceux qui prétendent qu'il a donné à la monarchie le germe de la mort en concentrant le pouvoir. Ce règne de 54 années, si chargé d'événements au dehors, ne compte au dedans que deux faits. La condamnation de Fouquet au début, et plus tard, la révocation de l'édit de Nantes. De fait d'accord avec le sentiment général, approuvé ou réclamé par l'opinion publique. Si un homme semblait devoir succéder à Mazarin, c'était le surintendant Fouquet, plus riche, presque aussi puissant que le roi lui-même. Fouquet avait édifié une immense fortune aux dépens des finances publiques, à l'exemple du cardinal, qui avait au moins, pour excuse à ses voleries, les services rendus à la nation. Louis XIV, au lendemain de la mort de Mazarin, avait pris lui-même la direction des affaires, travaillant avec ses ministres, ne déléguant son autorité à aucun d'eux. Il redoutait le surintendant, qui avait de grands moyens financiers, une nombreuse clientèle, un cortège de protégés, des amis partout, dans l'administration, dans le monde, chez les gens de lettres. De plus, Fouquet, selon une habitude qui remontait au temps des guerres civiles, avait acquis à Belle-Île un refuge, une place forte d'où il pouvait, en cas de disgrâce et de malheur, tenir tête au gouvernement. C'est ce dangereux personnage politique aspirant au rang de Premier ministre, que le roi voulut renverser. Ce serait le signe qu'il n'y aurait plus ni maire du palais, ni grand vizir, et que nul n'aurait licence de s'enrichir à la faveur du désordre et aux frais de l'État. La dissimulation et la ruse avec lesquelles Louis XIV procéda avant d'arrêter le surintendant montrent qu'il le craignait et qu'il n'était pas sûr de réussir. Fouquet, brisé plus facilement qu'on avait cru, la chute, acclamée par la France, de cette puissance d'argent qui aspirait à la puissance politique, l'exemple fut retentissant et salutaire. Rien désormais ne s'opposa plus à Louis XIV. 25 ans plus tard, le même courant conduisait, poussait à la révocation de l'édit de Nantes. On ne saurait séparer cette affaire des autres affaires religieuses du même temps. Ce qui devint peu à peu persécution du protestantisme s'apparente étroitement au conflit avec la papauté, conflit qui aboutit à la fameuse Déclaration des droits de l'Église gallicane en 1682, tandis que la révocation est de 1685. Les contemporains étaient hantés par le souvenir des guerres de religion. En mémoire de la Ligue, l'autorité du pape, or les choses de la foi, leur semblait un péril. Le jansénisme, qui avait trempé dans la fronde, était mal vu. Pour la même raison, la dissidence des protestants, qui vivaient cependant en repos, éveillait des appréhensions constantes. C'est une erreur de croire que le besoin d'unité morale, qui mena à la révocation, ait été d'essence uniquement religieuse. Il fut surtout politique. À cet égard, l'Angleterre et les pays protestants du Nord, en supprimant les restes du catholicisme, en persécutant les catholiques et en les écartant des emplois, avaient donné l'exemple. Les Anglais étaient restés sous l'impression de la conspiration des poudres et regardaient les papistes comme des traîtres et des ennemis publics. Pour les Français, le protestantisme représentait, avec le mauvais souvenir de l'État dans l'État et du siège de La Rochelle, une possibilité de retour aux guerres civiles et aux révolutions. Il est très remarquable que Bossuet ait conduit de front ses controverses avec les ministres de la religion réformée et la défense des libertés de l'Église gallicane, que les querelles de Louis XIV avec Innocent IX aient coïncidé avec les mesures contre les protestants. C'est par des conversions qu'on s'était flatté d'abord de les ramener. Il y en avait eu de retentissantes, celle de Turenne entre autres, qui laissait croire que le zèle était mort, que l'hérésie démodée, comme disait Madame de Maintenon, elle-même convertie, consentirait à disparaître. La résistance des réformés, surtout dans des communautés compactes du Midi, imita les convertisseurs. On passait insensiblement à des procédés plus rudes. Les protestants répondirent par l'émigration. D'autres, en Dauphiné, dans les Cévennes, vieux foyer de la réforme, prirent les armes. Alors, la France vit rouge, crut au retour des désolations de l'autre siècle, à des complots avec l'étranger, d'autant plus qu'on était à la veille de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. On voulut obtenir de force ce qui avait échoué par la persuasion. Toute l'histoire de la révocation est là, et le gouvernement de Louis XIV fut entraîné à des extrémités qu'il n'avait pas prévues, et introduit dans des embarras qu'il avoua lui-même, en déclarant que s'il supprimait la liberté du culte pour des raisons de police, il entendait respecter la liberté de conscience. L'émigration priva la France d'un grand nombre d'hommes généralement industrieux. Les évaluations vont de 150 à 400 000. Et le gouvernement, qui s'efforça bientôt de ramener les réfugiés, fut plus sensible à cette perte que le public, qui aurait volontiers crié « bon débarras ». Par un curieux retour des choses, ces émigrés, bien accueillis dans les pays protestants, surtout en Hollande, contribuèrent à répandre en Europe notre langue et nos arts, en même temps qu'une rancune que nos ennemis d'alors ne manquèrent pas d'exploiter. C'est plus tard seulement qu'en France même, on en a fait grief à Louis XIV. La condamnation de Fouquet, la révocation, telles furent les seules affaires intérieures du règne. Rien ne trouble donc l'œuvre magistrale d'organisation que Louis XIV entreprit avec ses ministres, mais sans varier de la règle qu'il s'était fixée, c'est-à-dire sans jamais déléguer le pouvoir à aucun d'eux, fussent-ils les plus grands. Colbert, disciple de Richelieu, formé par Mazarin, désigné par lui au roi, eut la besogne de plusieurs des plus gros ministères, les finances, la marine, le commerce, l'agriculture, les travaux publics, les colonies. Pourtant, il n'eut jamais le titre ni l'emploi de Premier ministre, pas plus que Louvois, réorganisateur de l'armée. Le duc de Saint-Simon s'est plaint de ce règne de vile bourgeoisie. Sous Louis XV, D'Argenson dira, avec le même dédain, « satrapie de roture ». Les collaborateurs directs de Louis XIV sortaient en effet de la classe moyenne. En quoi ce règne ne se distingue pas des autres règnes capétiens? Il y eut seulement, dans la génération de 1660, un zèle, un enthousiasme, une ardeur au travail, un goût de tout ce qui était ordonné et grand, qui se retrouve dans l'administration comme dans la littérature. L'idée était claire pour tous. La France avait un gouvernement ferme et stable. Elle avait la première place en Europe depuis que ni l'Allemagne divisée, ni l'Espagne vaincue, ni l'Angleterre affaiblie par ses révolutions ne la menaçaient plus. Cependant, la France n'était pas achevée. Bien des choses lui manquaient encore. Lille, Strasbourg, Besançon par exemple. C'était le moment d'acquérir nos frontières, de réaliser de très vieilles aspirations. Pour cela, il fallait que la France fût forte par elle-même, et non seulement de la faiblesse des autres, faiblesse qui ne durerait pas toujours, et à laquelle des coalitions remédieraient. Il fallait donner au pays les moyens qu'il n'avait pas, restaurer ce qui s'était englouti dans les désordres et les misères de la fronde. Des finances, de la richesse, une industrie, une marine, une armée, tout ce qui était tombé dans le délabrement. Quelques années de travail et de méthode suffirent à lui rendre des navires et des régiments, des ressources de toutes sortes, cet argent aussi, sans lequel, disait Colbert, un État n'est pas vraiment fort. Le moment de passer à l'action extérieure, c'est-à-dire d'achever la France, était venu. Pour l'intelligence de ce qui va suivre, et qui est fort compliqué, on doit se représenter ce que l'Europe était alors. La puissance que tout le monde avait crainte jusque-là, c'était l'Espagne. La Hollande, qui s'était affranchie de la domination espagnole, en souffrait avec inquiétude le voisinage dans le reste des Pays-Bas. Comme ce voisinage nous était également pénible, l'alliance franco-hollandaise se nouait naturellement. D'autre part, l'Angleterre et la Hollande, nations maritimes et commerçantes, rivalisaient entre elles, et aussi avec l'Espagne, la grande puissance coloniale de ce temps-là. Tandis que la France n'eut ni marine ni commerce, ses relations avec l'Angleterre et la Hollande furent amicales ou aisées. Tout changea lorsque, sous l'impulsion de Colbert, la France devint un concurrent commercial, lorsqu'une guerre de tarifs commença. Tout changea encore plus, tout s'aigrit, lorsque l'armée française, marchant à la conquête de la Flandre espagnole, les Hollandais virent qu'ils auraient pour voisin le puissant État français devenu plus redoutable pour eux que l'Espagne lointaine. L'achèvement de la France, la réalisation du grand dessein national, si souvent compromis, si longtemps entravé, repris par Richelieu, demandait pour réussir, et de ne pas coûter trop cher, que l'Angleterre au moins restât neutre. Chose difficile, il n'était ni dans ses traditions, ni dans ses intérêts, de nous voir avancer en Flandre, du côté d'Ostende et d'Anvers, tandis que notre pavillon grandissait sur mer. Deux circonstances favorables permirent à la politique française d'avoir pendant plusieurs années l'Angleterre dans son jeu. D'abord, la rivalité anglo-hollandaise. Ensuite, la restauration des Stuarts, qui s'était accomplie avec l'appui de la France. La France tenait Charles II, dont le trône était fragile, par l'aide qu'elle lui donnait et par l'inquiétude des restes de la faction de Cromwell, que Louis XIV, dans ses mémoires, se vante avec le réalisme du siècle d'avoir entretenu en même temps que l'autre parti, celui qui voulait ramener l'Angleterre au catholicisme. Notre situation fut bonne, et nos succès faciles, aussi longtemps que cette combinaison réussit, que l'Angleterre, affaiblie par ses luttes intérieures, fut dans nos intérêts et méconnut les siens. Les difficultés commencèrent à partir du jour où l'Angleterre et la Hollande se réunirent et où Guillaume d'Orange, ayant commencé par renverser la République hollandaise, renversa aussi les Stuarts, prit le trône de son beau-père Jacques II et devint roi d'Angleterre en 1689. Après cette révolution, la fortune de Louis XIV changea. L'Angleterre deviendra notre principal ennemi, l'âme des coalitions qui s'opposeront au développement de la France sur la mer comme sur le continent. On comprend que Louis XIV se soit intéressé à la cause des Stuarts autant que sa mère et Mazarin avaient été indifférents à la mort de Charles Ier. Il ne cherchait qu'à annuler l'Angleterre. Cette politique, qui réussit pendant 25 ans, permet à Louis XIV de poursuivre l'œuvre de Richelieu, d'effacer les plus graves effets, toujours présents, du mariage de Maximilien et de Marie de Bourgogne, et de donner à la France les territoires et la couverture qui, au nord et à l'est, lui manquaient cruellement. Après cela, Louis XIV devra défendre ses conquêtes. On peut dire que son histoire a deux parties distinctes, et comme deux versants, avant et après la chute de Jacques II. Ces brèves explications permettent de suivre plus aisément les cours des guerres qui eurent l'acquisition de la Flandre pour point de départ jusqu'à l'affaire de la succession d'Espagne, qui remplit la fin du règne. Si l'on blâme chez Louis XIV le goût des conquêtes, si on lui reproche son ambition, alors il faut trouver les premiers Capétiens ambitieux, parce qu'ils ont voulu s'avancer au-delà de Dreux et d'Étampes. Si l'on considère que Louis XIV a voulu aller trop loin, il faudrait dire à quel signe se fussent reconnues les limites auxquelles il devrait s'arrêter. L'objet essentiel étant de protéger la France contre les invasions, de lui donner une ceinture solide, il était aussi rationnel d'avoir Mons, Namur et Maastricht que les places de l'Escaut et de la Sambre, Valenciennes ou Maubeuge, qui mettent à l'abri la vallée de l'Oise. Ce qu'on appelle les conquêtes de Louis XIV partaient d'un plan stratégique et de sécurité nationale. Elles étaient en harmonie avec le système de Vauban, et pour ainsi dire dicté par lui. Ne nous étonnons pas plus que des pays de langue flamande soient incorporés à la France. C'est ainsi que nous avons gardé Hazebrouck et Cassel. Il s'agissait, dit Auguste Longuyon, de fermer le plat pays, compris entre la mer et la Lys. L'invasion de 1914, les batailles de Charleroi et de l'Isère nous rendent ces raisons plus sensibles. Le véritable conquérant, c'était donc le technicien Vauban, qui désignait les lieux et les lignes d'où la France était plus facile à défendre. C'est par des tâtonnements, des expériences, après des résistances vaincues ou reconnues insurmontables, que notre frontière du Nord et du Nord-Est s'est fixée où elle est. Rien ne l'indiquait sur la carte des Pays-Bas espagnols, où ont été mêlées si longtemps nos villes du Nord et les cités belges d'aujourd'hui. Quand le roi d'Espagne fut mort, les réformes de Colbert avaient porté leurs fruits. La France avait des finances saines, une armée, les moyens de sa politique. Le moment était venu de passer à l'action extérieure, et l'argument était prêt. La dot de Marie-Thérèse n'avait pas été payée. La renonciation subordonnée au paiement de cette dot était donc nulle, et Louis XIV revendiqua l'héritage de son beau-père. Toute cette procédure avait été réglée d'avance. Du point de vue militaire comme du point de vue diplomatique, l'affaire fut d'ailleurs longuement préparée, puisque le roi d'Espagne étant mort en 1665, Turenne n'entra en campagne que 2 ans plus tard. Elle fut menée ensuite avec une prudence extrême, au point qu'on s'étonna au dehors du défaut d'audace des Français. Cependant, l'Espagne était incapable de défendre ses provinces excentriques. En 1667, notre armée entra en Flandre, comme elle voulut, puis l'année suivante en Franche-Comté, mais par une action si mesurée qu'on aurait cru que l'Espagne était encore redoutable. Il faut avouer que cette modération, destinée à n'inquiéter ni la Hollande ni l'Angleterre, ne servit de rien, et c'est peut-être ce qui, par la suite, rendit Louis XIV moins ménager de l'opinion européenne. Turenne n'avait même pas osé pousser jusqu'à Bruxelles. Cependant, parce que nous avions pris quelques places flamandes, les Hollandais, jusque-là nos alliés, se crurent perdus et ameutèrent l'Europe contre le roi de France, qu'ils accusaient d'aspirer à la monarchie universelle. Notre diplomatie, habilement conduite par Hugues de Lionne, prit ses précautions. Le nouveau roi d'Espagne était maladif et débile. Il était probable qu'il ne laisserait pas d'enfant, et que son héritage serait revendiqué par les maris de ses 2 sœurs, l'une ayant épousé un Bourbon, l'autre un Habsbourg. Si l'empereur Léopold n'était pas pour le moment un compétiteur dangereux, il pouvait le devenir. Ainsi, la succession d'Espagne était déjà préoccupante. Un traité de partage éventuel fut signé avec Léopold pour prévenir ses difficultés futures et nous assura sur les possessions espagnoles qui resserreraient la France et la tenaient éloignée de ses frontières naturelles des droits beaucoup plus étendus que les modestes conquêtes de la récente campagne. Informée de cette transaction, la Hollande offrit alors à Louis XIV un arrangement sur la base des résultats acquis. Il eut donc fallu que Louis XIV, pour conserver l'amitié des Hollandais, abandonnât le traité de partage, se liât leurs mains pour l'avenir et que la France renonçât à parfaire son territoire. Le sage Lionne lui-même conseilla de ne pas signer un pareil engagement qui détruisait la transaction conclue avec l'empereur et qui ne profitait qu'à la maison d'Autriche. Alors la Hollande, comme si elle n'avait attendu que ce prétexte, se réconcilia avec l'Angleterre, chercha même à entraîner notre vieille alliée la Suède dans une coalition contre la France. Sur ces entrefaites, notre armée s'était emparée de la Franche-Comté presque sans coup férir. Louis XIV ne voulut pas aller trop vite et, au grand mécontentement des militaires, préféra ne rien hasarder. L'opposition qu'il avait rencontrée en Europe s'était ébauche de triple alliance hollando-anglo-suédoise à laquelle il ne s'était pas attendu, le rendait circonspect. Il se hâta, en 1668, de signer la paix d'Aix-la-Chapelle avec l'Espagne, à qui il restitua la Franche-Comté, ne gardant que ce qu'il avait pris en Flandre. Lille et Douai n'étaient pas des acquisitions négligeables. Aussitôt, Vauban fortifia les places nouvelles, donnant ainsi leur sens à ces conquêtes destinées à mettre la France sur son côté le plus vulnérable, à l'abri des invasions. Les historiens aiment tant à blâmer et contredire qu'ils reprochent en général à Louis XIV d'avoir été trop timide à ce moment-là, avant de lui reprocher d'avoir été plus tard téméraire. Ils disent qu'en 1668, la France pouvait s'étendre d'un coup jusqu'à Anvers, c'est-à-dire écraser dans l'œuf la future Belgique. Louis XIV jugea mieux qu'eux. Il savait que l'Angleterre n'avait renoncé à Calais qu'à contre-cœur et nous souffrait difficilement à Dunkerque. À Anvers, c'était une hostilité certaine, et la politique française avait besoin que l'Angleterre restât neutre pour exécuter un plan qui n'était en somme que le plan de sécurité de Vauban. Les Français de cette époque rêvaient peu, ou leur imagination était réaliste. Ils se souciaient moins d'agrandir leur pays que de le protéger. La possession de l'île leur apparaissait surtout comme celle d'une bonne place de couverture. À chaque ville prise, Vauban creusait des fossés, construisait des courtines et des demi-lunes. Et, depuis, ces travaux ont servi chaque fois que nous avons été attaqués. On comprend que Louis XIV ait écouté distraitement Leibniz, qui lui conseillait de laisser les bicoques de la Meuse et de l'Escaut pour conquérir l'Égypte et l'Inde. On a même écrit avec dédain que la politique de Louis XIV avait été d'esprit terrien, c'est-à-dire terre à terre. On veut dire que malgré le style ample du siècle et la manière majestueuse dont Louis XIV a parlé de sa gloire, cette politique était celle du bonhomme Chrysal, qui préférait la bonne soupe au bon langage. Nous nous sommes étendus sur la première grande opération politique et militaire que Louis XIV ait entreprise parce que le reste y est en germe. Que résultait-il de cette expérience ? Que, pour compléter la France du Nord, il fallait venir à bout des Hollandais. Pour venir à bout des Hollandais, il fallait d'abord dissoudre leurs alliances. Le Stuart fut repris en main. Pour la Suède, on mit l'enchère sur les Florins de la Hollande. Les princes allemands furent en grand nombre gagnés par des subsides et nous étions comme chez nous, chez notre allié, l'électeur de Cologne. C'est ainsi qu'en 1672, la Hollande put être envahie par une puissante armée française. Cette campagne, qui s'annonçait comme facile, fut pourtant le début d'une grande guerre qui dura 6 ans. Tout eût peut-être été fini en quelques semaines si, par un excès de prudence, nous n'étions arrivés trop tard à Muiden, où se trouvaient les principales écluses. La Hollande s'inonda pour se sauver et mettre Amsterdam hors d'atteinte. Elle fit plus. Elle renversa la République bourgeoise, où nous gardions encore des amis, pour donner le Statuera, c'est-à-dire la monarchie, à Guillaume d'Orange, notre adversaire obstiné. Tout changea par la résistance de cette petite nation, passée du régime républicain au régime monarchique et militaire. La France fut tenue en échec. Guillaume d'Orange s'appliquait partout à lui susciter des ennemis. Il travaillait en Angleterre protestante contre Charles II. Il s'alliait à l'électeur de Brandebourg, la Prusse de demain, à l'empereur, à l'Espagne même, à tous ceux qui avaient des rancunes contre nous, à ceux qui auraient bien voulu détruire les traités de Westphalie et des Pyrénées. Ainsi se forma une première coalition, encore faible et chancelante, à laquelle la France résista victorieusement et sans grande difficulté. L'abstention de l'Angleterre ne nous créait pas de péril maritime, et sur le continent, il nous était facile de lancer la Suède et les Polonais contre les Brandebourgeois, les Hongrois contre l'Empereur, et de nourrir des insurrections contre le roi d'Espagne. Sans compter les États allemands, qui nous restaient fidèles, comme la Bavière, ou qui le redevenaient, soit par crainte des Habsbourg, soit à prix d'argent. Il n'en est pas moins vrai que la situation était renversée. La France dut se mettre sur la défensive. Un moment, l'Alsace, que l'empereur rêvait de nous reprendre, fut envahie, et c'est là que périt Turenne. Mais la France était forte sur terre et sur mer, et elle était riche. Notre armée progressait, lentement mais sûrement dans la Flandre, qui restait notre objet principal. Notre marine, l'œuvre de Colbert, s'aguerrissait, et l'illustre Ruyter était battu par Duquesne. Malgré la ténacité du Stadhouder, les Hollandais se lassaient, commençaient à prendre peur, et nos amis du parti républicain demandaient la paix. De son côté, Louis XIV désirait en finir. Il ne cessait d'avoir les yeux fixés sur l'Angleterre qui nous échappait. Charles II, cédant peu à peu à l'opinion publique, venait de donner sa nièce, Marie, en mariage à Guillaume d'Orange. Enfin, la paix étant mûre, fut signée à Nimègue en 1678, et Louis XIV put y imposer ses conditions, toujours inspirées des mêmes principes, des agrandissements calculés en vue de la sécurité de nos frontières, des places trop avancées fut restitué à l'Espagne, Gand, Charleroi, Courtrai. Mais nous gardions Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer, Maubeuge, soit la moitié de la Flandre, plus la Franche-Comté qui couvrait la France à l'est. La France prenait ainsi sa figure et ses dimensions modernes. D'autres dispositions du traité, subies par l'empereur, préparaient l'annexion du duché de Lorraine. D'autres encore, mettant à notre discrétion la rive gauche du Rhin, nous protégeaient de ce côté, vulnérable, contre les invasions. Tout cela était conforme à un système de prévoyance et de prudence auquel la postérité a bien mal rendu justice. On honore le nom de Vauban sans savoir que les conquêtes de Louis XIV, conquêtes de sûreté et de place forte, ont été, pour ainsi dire, réglées par lui. La ceinture de la France était à la fois élargie et mieux fermée. Ce résultat avait été acquis grâce au traité de Westphalie et des Pyrénées qui nous avait affranchis de la pression allemande et de la pression espagnole. Grâce encore, c'est un point sur lequel on ne saurait trop insister, aux circonstances soignées et exploitées par notre action diplomatique, qui avait tenu l'Angleterre à l'écart. Si l'Angleterre s'était tournée contre nous un peu plus tôt, il n'est pas certain que notre entreprise de Flandre eût mieux réussi que sous les Valois. Mais nous approchons du moment où l'Angleterre s'opposera à la politique française, prendra la tête des coalitions et les rendra redoutables. Nous entrerons alors dans une période de difficultés et de périls, une sorte de nouvelle guerre de 100 ans, qui ne sera pas plus que l'autre une guerre de tous les jours, mais qui ne se terminera qu'au XIXe siècle, à Waterloo. Il y eut en attendant un répit pendant lequel l'État français, ayant en somme dicté ses conditions à Nimègue, parut dans toute sa puissance. Louis XIV en profita pour fermer encore quelques trouées, supprimer les enclaves gênantes et choquantes qui subsistaient au milieu de nos possessions nouvelles. La méthode adoptée fut de prononcer l'incorporation au royaume par des arrêts de justice fondés sur l'interprétation des traités existants et appuyés au besoin par des démonstrations militaires. C'est ainsi qu'il fut procédé en Franche-Comté, en Alsace et en Lorraine. C'est ainsi qu'en 1681, Strasbourg devint français, par arrêt de justice avant de l'être de cœur, ce qui ne tarda pas. Ces annexions, en pleine paix, selon une méthode fort économique pour nous, et que l'on appela d'un mot très juste des réunions, causèrent du mécontentement en Europe. L'Allemagne s'émut. Mais ni l'empereur, menacé par les Turcs jusque sous les murs de Vienne, ni les pacifiques bourgeois hollandais, revenus à leurs négoces, n'étaient en état ou en humeur d'entreprendre la guerre. L'Angleterre, toujours neutre, notre diplomatie dissuada les princes allemands d'intervenir. Et, par la trêve de Ratisbonne, les réunions furent provisoirement acceptées par l'Europe. C'était encore un succès, mais fragile. Le péril d'une coalition était apparu, et l'on découvrait que l'Europe n'acceptait pas les agrandissements de la France, qu'à la première occasion, elle s'efforcerait de nous ramener à nos anciennes limites. Dans cette situation, les ressources diplomatiques n'étaient pas négligées, mais elles s'épuisaient. Louis XIV pensa que le seul moyen était d'imposer, car si la crainte qu'il inspirait venait à cesser, toutes les puissances se réuniraient contre lui. C'est ainsi que dans plusieurs affaires qui se présentèrent alors, par exemple le bombardement de Gênes, qui mettait ses navires au service de l'Espagne. On reproche au roi d'avoir bravé l'Europe, de même qu'on lui reproche d'avoir manqué d'audace dans la première campagne de Flandre. Il est facile de blâmer à distance. Sur le moment, le parti à prendre n'est pas si commode. On dit que Louis XIV a provoqué la coalition. Est-ce sûr qu'il ne l'eût pas encouragé en donnant une impression de timidité et de faiblesse? Déjà, Guillaume d'Orange et l'empereur Léopold s'entendaient secrètement. La révocation de l'édit de Nantes sur ces entrefaites donna un aliment à la propagande anti-française dans les pays protestants. Mais les protestants n'étaient pas nos seuls ennemis. L'empereur, de son côté, se chargeait d'exciter les pays catholiques en accusant Louis XIV d'être l'allié des Turcs. Le roi eut même un grave conflit avec le pape Innocent XI. Avignon fut occupé, et il s'en fallut de peu que le marquis de Lavardin, entré à Rome avec ses soldats, m'imita Nogaret. C'est la curieuse ressemblance que nous avons déjà signalée de ce règne avec celui de Philippe le Bel. La Ligue d'Augsbourg se forma dans ces circonstances. Elle fut loin, au début, de comprendre toute l'Allemagne et toute l'Europe. Elle devait bientôt se compléter. La chose la plus grave était en voie de s'accomplir. L'Angleterre tournait du côté de nos ennemis. L'opposition contre Jacques II grandissait, et 7 membres de la Chambre des Lords avaient pris l'initiative d'offrir le trône à Guillaume d'Orange. Quand Louis XIV proposa à Jacques II de le soutenir, il eut la désagréable surprise d'être repoussé par le Stuart, qui, de crainte d'être définitivement compromis par l'alliance française, se priva de son unique secours. Ne pouvant plus compter sur Jacques II, Louis XIV prit le parti de laisser faire, dans l'idée que l'usurpation de Guillaume d'Orange entraînerait une longue guerre civile et immobiliserait l'Angleterre et la Hollande à la fois. Ce calcul se trouva faux. Le prince d'Orange débarqua en Angleterre et détrôna son beau-père sans difficulté. 1688. Les efforts des Stuarts pour reprendre leur couronne seront vains. Désormais, l'Angleterre nous est hostile. Elle ne fait plus qu'un avec la Hollande. Toute la politique de l'Europe est changée. Louis XIV, qui pressentait ces événements, n'avait pas voulu les attendre. Étant donné l'attitude qu'il avait prise, son dessein était d'user d'intimidation et de précaution. Sans déclarer la guerre, il annonça qu'il était obligé d'occuper la rive gauche du Rhin et une partie de la rive droite afin que l'Empire ne pût s'en servir comme d'une base militaire contre la France. En dévastant le Palatinat de l'autre côté du Rhin, ravage que les Allemands nous reprochent encore, comme s'ils n'en avaient pas commis bien d'autres, Louvois suivit brutalement la logique de cette conception défensive. Pour se donner un glacis plus sûr, il mit un désert entre l'Empire et nous. Louis XIV blâma ces violences contraires à notre politique d'entente avec les populations germaniques. Par le fait, pendant toute la guerre qui dura de 1689 à 1697, le glacis fut infranchissable, malgré le nombre de nos ennemis et l'importance des forces qui nous attaquaient. D'ailleurs, ces préparatifs en pays rhénan étaient accompagnés de grands travaux sur les autres parties de la frontière. La politique de Louis XIV restait fidèle à son principe. Entourer la France de forteresses et de tranchées, fermer toutes les trouées, barrer les routes d'invasion. C'est pourquoi le roi voulut, dès le début de la campagne, s'emparer de Mons et de Namur, qui couvrent la vallée de l'Oise. Ne pouvant emporter de front ce système imprenable, l'ennemi songea à le tourner par la Suisse. Les traités d'amitié conclus avec les cantons nous mirent encore à l'abri de ce côté-là. L'Empire, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie, l'Espagne, dans cette guerre, dite de la Ligue d'Augsbourg, nous avions presque toute l'Europe contre nous. Le but des coalisés ? Annuler les agrandissements de Louis XIV, ramener la France aux limites des traités de Westphalie et des Pyrénées. Après quoi, ces traités eux-mêmes eussent été bien compromis. Malgré 8 ans de campagne où, de part et d'autre, on évita les grandes batailles décisives, la coalition, d'ailleurs souvent désunie, bien que Guillaume d'Orange en fût le chef, n'obtint pas le résultat qu'elle cherchait. Partout sur terre, la France lui avait tenu tête. On ne s'était pas battu sur notre sol et nous avions été vainqueurs à Steenkerke et à Neerwinden, à Staffarde et à La Marseille. La guerre se serait terminée entièrement à notre avantage si sur mer nous n'avions eu le dessous. Pourtant, les débuts de la campagne maritime avaient été brillants. La flotte puissante qu'avait laissée Colbert ne craignait pas les forces réunies des Anglo-Hollandais. Nous débarquions librement en Irlande pour y soutenir Jacques II et l'idée vint de débarquer en Angleterre même. Mais la difficulté pour la France était toujours de tenir l'océan et la Méditerranée, le Ponant et le Levant. De plus, il y avait à Paris 2 écoles, celle qui croyait à l'importance de la mer, celle qui ne croyait qu'aux victoires continentales. Après le désastre de la Hougue, les continentaux l'emportèrent sur les maritimes. Cette défaite navale n'était pas irrémédiable. Si elle ruinait l'espoir de réduire l'Angleterre en la menaçant jusque chez elle, notre marine n'était pas détruite. La confiance l'était. L'opinion publique cessa de s'intéresser aux choses de la mer. La dépense qu'exigeait l'entretien de puissantes escadres servit de prétexte. Colbert était mort, son œuvre ne fut pas poursuite et la décadence commença. De longtemps, nous n'aurons plus de force navale capable de s'opposer aux Anglais, à qui reviendra la maîtrise des mers. La défaite de la Hougue en 1692 fut loin de terminer la guerre. Elle nous empêcha seulement de la gagner tout à fait. Tourville et Jean Bart portèrent encore de rudes coups aux amiraux anglo-hollandais. Sur terre, la coalition s'épuisait, mais la France se fatiguait aussi. Sur le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, elle n'avait été entamée nulle part, mais elle avait souffert. Cet immense effort avait été coûteux. Les ressources créées par Colbert avaient fondu, et Louis XIV voyait approcher l'heure, chargée de soucis, où la succession d'Espagne s'ouvrirait. Il cherchait depuis longtemps une paix de compromis, à la fois avantageuse et honorable. Cette paix, réfléchie, modérée, fut celle de Ryswick, 1697. Si la France restituait beaucoup de choses, elle gardait Strasbourg. Et surtout, ces restitutions s'inspiraient du plan qui consistait à nous donner des frontières solides. Le système de Vauban avait subi victorieusement l'épreuve de la guerre. Mais Vauban avait peut-être tendance à étendre un peu trop son système. Louis XIV pensa qu'on ne perdait rien à le resserrer. Il n'en fut pas moins blâmé pour n'avoir pas tiré meilleur parti des victoires de Luxembourg et de Catinat. Les militaires se plaignirent hautement de cette paix, et Louis XIV, au nom duquel on attache aujourd'hui des idées d'excès et d'orgueil, a passé de son temps pour avoir, par timidité, sacrifié les intérêts et la grandeur de la France. Ces contradictions sont la monnaie courante de l'histoire. Quand on l'a un peu pratiquée, on ne s'en étonne même plus. Ce qui avait le plus coûté à Louis XIV, c'était de reconnaître Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre et de renoncer à la cause des Stuarts, car c'était aussi reconnaître que l'Angleterre échappait à notre influence. Mais un intérêt supérieur exigeait des grands ménagements de beaucoup de côtés. L'événement prévu depuis le début du règne, depuis le mariage avec Marie-Thérèse, approchait. Le roi d'Espagne Charles II, beau-frère de Louis XIV et de l'empereur Léopold, allait mourir sans enfant. Selon que Charles II laisserait sa succession à l'un ou à l'autre de ses neveux, le sort de l'Europe serait changé. Le danger pour nous, c'était que l'héritage revint aux Habsbourg de Vienne, ce qui eût reconstitué l'empire de Charles Quint. D'autre part, Charles II ne se décidait pas. D'innombrables intrigues se croisaient autour de son testament. Louis XIV pensait aussi, et avec raison, que si un Bourbon était désigné, ce ne serait pas sans peine, et peut-être sans guerre, qu'il recueillerait le magnifique héritage. Espagne, Flandre belge, une grande partie de l'Italie, le Mexique et presque toute l'Amérique du Sud. Pour un homme aussi sensé, c'était trop beau. Il savait maintenant que dans tous ses projets, il devait compter avec les puissances maritimes. En outre, il était clair que l'Angleterre convoitait les colonies de l'Espagne. Louis XIV préféra donc négocier un traité de partage de la succession espagnole et, pendant près de 3 ans, la carte de l'Europe fut maniée et remaniée de façon à donner satisfaction à tous les compétiteurs, Habsbourg et Bourbon, Bavière et Savoie. Les plans de Louis XIV étant toujours dirigés par le principe des frontières, et c'était en Lorraine, dans les Alpes, à Nice, qu'il cherchait des compensations à ses abandons de l'héritage espagnol. La mauvaise foi de Guillaume d'Orange, au cours de ses pourparlers, est certaine, car seule l'Angleterre, dans ses projets, ne recevait rien. Un premier partage fut annulé par la mort du prince électoral de Bavière, auquel l'Espagne, pour n'inquiéter personne, avait été attribuée. Tout fut à recommencer. La bonne volonté de Guillaume d'Orange manquait, parce qu'une solution pacifique enlevait à l'Angleterre l'espérance de s'enrichir des dépouilles d'Espagne dans les pays d'outre-mer. Ce qui manquait encore, c'était le consentement de l'empereur Léopold, qui travaillait pour que le testament fût en faveur de sa famille. C'était le consentement des Espagnols eux-mêmes, qui ne voulaient pas que leur état fût démembré. Le testament de Charles II, toujours hésitant et qui n'aimait pas à prévoir sa mort, fut enfin imposé par les patriotes espagnols qui désignèrent le second des petits-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, un prince de la puissante maison de Bourbon, leur paraissant plus capable qu'un autre de maintenir l'indépendance et l'intégrité de l'Espagne. Peu de délibérations furent plus graves que celles où Louis XIV, en son conseil, pesa les raisons par lesquelles il convenait d'accepter ou de repousser le testament de Charles II, qui mourut en 1700. Accepter, c'était courir les risques d'une guerre, au moins avec l'empereur, très probablement avec l'Angleterre, dont le gouvernement n'attendait que le prétexte et l'occasion d'un conflit pour s'attribuer la part coloniale de l'héritage espagnol. Ainsi, l'acceptation, quelques précautions que l'on prit, c'était la guerre. Mais s'en tenir au traité de partage, c'était ouvrir à l'empereur le droit de revendiquer l'héritage entier, car tout partage était exclu par le testament. Alors, et selon l'expression du chancelier Pontchartain, que rapporte Saint-Simon, il était au choix du roi de laisser brancher, c'est-à-dire élever, une seconde fois la maison d'Autriche à fort peu de puissance près de ce qu'elle avait été depuis Philippe II. C'était la considération capitale, elle emporta l'acceptation. Un des ministres présents fut pourtant d'avis que nous ne gagnerons pas grand-chose à installer à Madrid un Bourbon, dont tout, au plus loin de la première postérité, devenue espagnole par intérêt, se montrerait aussi jalouse de la puissance de la France que les rois d'Espagne autrichiens. Et il est vrai que les ducs d'Anjou devint très vite espagnols. Mais le grand point gagné, ce n'était pas seulement qu'il y eut à Madrid une dynastie d'origine française, c'était qu'il n'y eut plus de lien entre l'Espagne et l'Empire germanique, et que la France ne fut plus jamais prise à revers. Soulagement, sécurité pour nous. Le mot célèbre et arrangé, « il n'y a plus de Pyrénées », traduisait ce grand résultat. La fin d'une inquiétude et d'un péril qui avait si longtemps pesé sur la France. Ainsi, refuser le testament, c'était laisser l'Europe à la maison d'Autriche, malgré la nation espagnole qui appelait le duc d'Anjou. L'accepter, c'était en revanche renoncer aux acquisitions que le traité de partage nous promettait. Il fallait opter. Un intérêt politique supérieur, la considération de l'avenir l'emportèrent. À distance, les raisons qui déterminèrent le choix paraissent encore les meilleures et les plus fortes. Par la suite, nous nous sommes félicités, en 20 occasions, d'avoir soustrait l'Espagne à l'influence allemande. À partir du moment où un petit-fils de Louis XIV succédait à Charles II sous le nom de Philippe V, il était inévitable qu'il y eût en Europe de violentes oppositions. celle de l'empereur évincé fut immédiate. Quant à Guillaume d'Orange, d'avance son parti était pris. Toutefois, il devait compter avec le Parlement anglais et avec les États généraux de Hollande, également là de la guerre. Eût-il été possible à Louis XIV d'échapper au conflit? On lui reproche des fautes qui donnèrent à Guillaume III le prétexte qu'il cherchait pour exciter l'opinion publique en Angleterre et aux Pays-Bas. En réalité, Louis XIV devait s'attendre à des hostilités et ses mesures de précaution étaient aussitôt traduites en provocations. Son petit-fils régnant en Espagne, le roi de France était comme chez lui à Anvers et à Ostende, et c'était ce que l'Angleterre ne pouvait supporter. Elle ne pouvait supporter non plus que par son association avec l'Espagne, la France domina la Méditerranée, devint peut-être la première des puissances maritimes et coloniales. La Chambre des communes n'hésita plus lorsqu'elle eut compris, selon l'expression d'un historien, que cette guerre était une guerre d'affaires, dont l'enjeu sera le commerce des riches colonies espagnoles. Comme dans tous les grands conflits, les considérations économiques se mêlaient aux considérations politiques. Guillaume III mourut avant d'avoir déclaré la guerre, et sans qu'elle en fût moins certaine, tant il est vrai que les hommes n'y pouvaient et n'y changeaient rien. La situation était plus forte qu'eux. Il suffit de penser à une chose. Que dirait l'histoire si Louis XIV avait laissé tomber l'Espagne aux mains de l'empereur germanique? Que dirait-elle d'un gouvernement britannique qui se serait désintéressé de l'opulente succession? Il vient sans doute à l'esprit que Louis XIV eût pu rassurer des puissances inquiètes en marquant avec netteté que la France et l'Espagne ne se confondraient pas. Mais déjà, l'empereur revendiquait par les armes ce qu'il appelait son héritage, et l'Espagne était si faible, si peu capable de se défendre elle-même, sans compter les embarras qui résultaient du changement de dynastie, que nous dûmes la porter à bout de bras, mettre nos armées, nos généraux, nos ressources au service de Philippe V. Dans ces conditions, nos ennemis avaient beau jeu à prétendre que l'État français et l'État espagnol ne faisaient plus qu'un, et les accusations d'impérialisme redoublaient. Louis XIV, prévoyant que la lutte serait difficile, s'était muni d'alliances, l'électeur de Bavière et celui de Cologne, le duc de Savoie, le Portugal. La tactique de la coalition fut de mettre hors de combat. Le duc de Savoie, adepte de la versalité réfléchie, lâcha pied le premier. Au Portugal, les Anglais imposèrent les traités de Lord Methuen qui plaçaient en quelque sorte ce pays sous leur protectorat. Ils profitèrent aussi des circonstances pour s'installer à Gibraltar, où ils sont restés depuis, et à Port Mahon. L'Angleterre se servait, elle assurait sa domination maritime, tout en affectant de mener le bon combat pour la liberté de l'Europe. D'ailleurs, sur terre et sur mer, elle conduisait de plus en plus vigoureusement la lutte, maintenait entre les coalisés une union difficile, ne marchandait pas les subsides à l'empereur, et reconnaissait comme roi d'Espagne l'archiduc Charles, que sa flotte débarqua en Catalogne. Marlborough et le prince Eugène étaient des adversaires redoutables. Nos généraux moins bons et moins heureux, notre marine, négligée depuis la Hougue, réduite à la guerre de corsaires. Après la défaite de l'armée franco-bavaroise à Hüttstedt, la Bavière fut réduite à merci. L'Allemagne perdue pour nous. Le Milanais et la Flandre belge le furent à leur tour. En 1706, après 4 ans de guerre, les armées françaises étaient refoulées sur nos frontières, qu'il fallait défendre en même temps que l'Espagne envahie. Énorme effort où s'épuisait la France, qui arrivait à peine à contenir l'ennemi sur les lignes préparées par Vauban. Les mauvaises nouvelles se succédaient. Le territoire fut entamé et la prise de l'île fut ressentie comme un coup terrible. À la fin de l'année 1708, les coalisés se crurent certains que la France était perdue. Louis XIV avait tenté de bonne heure d'ouvrir des négociations, craignant que les résultats acquis dans la première partie de son règne ne fussent compromis. C'était au fond ce que la coalition voulait. À chacune de ses offres, elle répondait par des exigences plus fortes. L'empereur avait d'abord demandé Strasbourg, puis toute l'Alsace. Louis XIV fut allé jusqu'à abandonner Philippe V. La coalition voulut en outre qu'il s'engageât à combattre son petit-fils pour l'obliger à laisser l'Espagne à l'archiduc Charles. Encore à ce prix, la France n'eût-elle obtenu qu'une suspension d'armes de 2 mois, un armistice misérable et incertain. L'intention de ruiner et de démembrer notre pays était évidente. Il fallait résister jusqu'au bout, quel que fût le désir et le besoin de la paix, et pour cela, expliquer à l'opinion publique que nos ennemis nous obligeaient à continuer la guerre. On conseillait à Louis XIV de convoquer les États généraux. Il ne voulut pas de ce remède dangereux. Il préféra écrire une lettre, nous dirions aujourd'hui un message, dont lecture fut donnée dans tout le royaume, et les Français y répondirent par un nouvel élan. Cette faculté de redressement, qui est leur propre, parut encore à ce moment-là. Les récriminations ne manquèrent pas non plus, ni les gens qui réclamaient des réformes et à qui les revers fournissaient l'occasion de se plaindre du régime. La résistance ne fut pas inutile, car nos ennemis à leur tour se fatiguaient. En somme, sauf dans le Nord, la France n'était pas envahie, et sur nos lignes de défense, nous ne reculions que pied à pied. La journée de Malplaquet, en 1709, l'année terrible, fut encore malheureuse pour nous, mais elle coûta horriblement cher aux Alliés. Les négociations recommencèrent avec un plus vif désir d'aboutir chez les Anglais, là de soutenir la guerre continentale par des subsides aux uns et aux autres. Les Tories, c'est-à-dire approximativement les conservateurs, arrivèrent au pouvoir, et le parti Tory nous était moins défavorable que le Whig, c'est-à-dire les libéraux. Il comprit que le moment était venu pour l'Angleterre de consolider les avantages maritimes et coloniaux que la guerre lui avait rapportés. De plus, un événement considérable s'était produit en Europe. Par la mort inopinée de l'empereur Joseph, l'archiduc Charles avait hérité de la couronne d'Autriche. En continuant la guerre à leurs frais pour lui donner l'Espagne, les Anglais auraient travaillé à reconstituer l'empire de Charles Quint, non plus par métaphore, mais dans la réalité. La combinaison que Louis XIV acceptait, c'est-à-dire la séparation des deux monarchies de France et d'Espagne, n'était-elle pas préférable ? Il se trouvait qu'au total, Louis XIV, en acceptant la succession, avait sauvé l'Europe d'un péril et combattu pour cet équilibre européen, dont la doctrine, pour être moins claire chez les Anglais que chez nous, était mieux comprise du parti Tory. Ces nouvelles réflexions furent mûries à Londres par un soulèvement de l'Espagne en faveur de Philippe V et la victoire franco-espagnole de Villaciosa. Dès lors, les pourparlers avancèrent et un armistice franco-anglais fut conclu en 1711. Les Hollandais et les Impériaux restaient intransigeants, mais privés de leur appui principal. Il était temps pour nous. La place de Landrecy succombait et les dernières lignes de la frontière artificielle qui nous avait permis de contenir l'invasion cédaient à leur tour. Les Hollandais et les Impériaux appelaient leur retranchement le chemin de Paris. Villars réussit à les arrêter et à les battre à Denain, puis à reprendre l'offensive et à délivrer les places du Nord déjà tombées, au pouvoir de l'ennemi. Les traités d'Utrecht, 1713, ne tardèrent plus. Débarrassés en vain détails et de louanges, aussi superflus que les reproches, l'histoire de Louis XIV revient à ceci. Les conséquences heureuses qui étaient contenues dans les traités de Westphalie et des Pyrénées ayant été tirées, une partie de l'Europe s'était liguée pour anéantir ses résultats. À la fin de cette longue lutte, une sorte de balance s'était établie. La France avait perdu la partie sur les mers. Sur le continent, elle conservait, à peu de choses près, les frontières qu'elle avait acquises, des frontières légèrement plus étendues en certains points. Nous gardions par exemple l'Ando, si l'on excepte le duché de Lorraine, qui n'était pas encore réuni au royaume, bien qu'il fût sous le contrôle de la France. Mais nous étions écartés de la Flandre belge. Là-dessus, la volonté fixe de l'Angleterre l'avait emporté. La clause principale du traité d'Utrecht était celle qui enlevait la Belgique à l'Espagne pour la donner à l'empereur sous couleur de compensation. Pas plus de Belgique française que de Belgique espagnole sous un prince d'origine française. Le motif le plus profond de l'opposition des Anglais à Philippe V avait été celui-là. Si la maison d'Autriche reçut les Pays-Bas, ce fut à la condition de ne jamais pouvoir en disposer en faveur de personne. Et personne voulait dire la France. La Hollande, devenue par Guillaume d'Orange une simple annexe de l'Angleterre, fut chargée de veiller à l'exécution de cette clause essentielle, et elle eut droit de tenir garnison dans un certain nombre de places belges. Le traité, dit de la barrière, c'était en effet une barrière contre la France, organisait un condominium austro-hollandais, assez semblable à la neutralité sous laquelle la Belgique a vécu de nos jours. En exigeant que le port de Dunkerque fût comblé, ses fortifications rasées, l'Angleterre montrait l'importance qu'elle attachait à nous désarmer sur la côte, qui lui fait face, comme à nous tenir éloignés d'Anvers. La question de la Flandre-Belgique, si longtemps débattue entre la France et l'Angleterre, est une des clés de notre histoire. Nous l'avons vu et nous le verrons encore. Ce n'était pas tout ce que l'Angleterre obtenait. Elle eut sa part de la succession d'Espagne. Maîtresse de la mer, elle devait l'être aussi des colonies. Dans l'Amérique du Nord, où nous avions pris pied depuis Henri IV, des territoires peuplés par les Français, Terre-Neuve, l'Acadie, furent perdus pour nous, et le Canada menacé. Dans l'Amérique du Sud, le privilège du commerce enlevé à l'Espagne fut transféré à l'Angleterre, à qui la suprématie maritime et coloniale revint. La Hollande elle-même, chaloupe dans le sillage de l'Angleterre, cessa de compter. Au regard de celle-là, les autres conditions du traité d'Utrecht et de ceux qui le complétèrent peuvent sembler secondaires. la séparation formelle des couronnes de France et d'Espagne, la renonciation de Philippe V à ses droits du prince français allait de soi. D'autres dispositions eurent toutefois de grandes conséquences que tout le monde n'aperçut pas. Pour obtenir une paix durable par une sorte d'équilibre, tentative que les congrès européens recommencent au moins une fois tous les 100 ans, on procéda à de nombreux échanges de territoires. La physionomie de l'Europe en fut transformée. L'empereur, surtout, pour les dédommager de la couronne d'Europe, reçut, outre les Pays-Bas, des compensations considérables, la Lombardie, la Toscane, le royaume de Naples. Par ces agrandissements, le centre de gravité de l'Autriche fut brusquement déplacé vers l'Italie et l'Orient, éloigné du corps germanique. Les possessions de l'empereur furent désormais disséminées d'une défense difficile. Alanguie par son extension, impuissante en Allemagne, la maison d'Autriche cessait d'être dangereuse pour nous. Elle devenait en Europe une puissance conservatrice, comme la France elle-même, qui n'avait aucun intérêt à remettre en question des résultats péniblement acquis. Cependant, deux États s'étaient élevés, deux États qui auraient leur fortune à faire. L'électeur de Brandebourg était devenu roi en Prusse, et il était écrit que les Hohenzollern, les plus actifs et les plus ambitieux des princes allemands, chercheraient à dominer l'Allemagne et à reconstituer à leur profit l'unité allemande manquée par les Habsbourg. Le duc de Savoie allait également prendre le titre de roi, et sa position était la même vis-à-vis des Habsbourg et de l'Italie. C'était un grand changement dans le système des forces européennes. Louis XIV, tout près de sa mort, comprit que la lutte contre la maison d'Autriche était un anachronisme. Selon le véritable esprit de politique française et des traités de Westphalie, il fallait surveiller l'État, quel qu'il fût, qui serait capable d'attenter aux libertés du corps germanique. Et, pour un œil exercé, cet État était la Prusse. Tel fut le testament politique de Louis XIV qui n'avait reconnu le nouveau roi de Berlin qu'après une longue résistance. Mais Louis XIV ne devait pas être écouté. C'est sa véritable gloire d'avoir compris que la rivalité des Bourbons et des Habsbourg était finie, qu'elle devenait un anachronisme, que des bouleversements continentaux ne pourraient plus se produire qu'au détriment de la France et au profit de l'Angleterre, pour qui chaque conflit européen serait l'occasion de fortifier sa domination maritime et d'agrandir son empire colonial. L'Autriche n'était plus dangereuse, la Prusse ne l'était pas encore, tandis que l'Angleterre, victorieuse sur les mers, nous menaçait d'étouffement. Pour maintenir notre position sur le continent, nous avions dû lui céder de ce côté-là. C'est de ce côté-là aussi que devrait se porter un jour, après des erreurs et des diversions malheureuses, notre effort de redressement. Car, ce que cette longue guerre avait encore enseigné, c'était que nous ne pouvions pas lutter victorieusement contre les Anglais si nos forces maritimes n'étaient pas en mesure de tenir tête aux leurs. La France était très fatiguée lorsque Louis XIV mourut en 1715. Encore une fois, elle avait payé d'un trop haut prix l'acquisition de ses frontières et de sa sécurité. Était-ce trop cher ? Il ne manqua pas de Français pour le trouver. Les souffrances avaient été dures. L'année 1709, avec son terrible hiver et sa famine, se passa tout juste bien. On murmura beaucoup. Il se chanta contre le roi et sa famille des chansons presque révolutionnaires. Un jour, des femmes de Paris se mirent en marche sur Versailles pour réclamer du pain. La troupe dut les arrêter. Il y eut aussi d'honnêtes gens et de beaux esprits chimériques pour exposer des plans de réforme. La mort du jeune duc de Bourgogne avait dispersé un petit groupe qu'inspiraient Fénelon, Saint-Simon, Boulainvilliers. On y formait des plans de retour à un passé imaginaire, une sorte de roman politique que traduit en partie le Télémaque. On y rêvait, contre l'expérience de notre histoire, d'une harmonie délicieuse entre la royauté patriarcale et des états généraux périodiques où la noblesse aurait retrouvé un grand rôle. Ce mouvement néo-féodal, ou de réaction aristocratique, n'est pas négligeable, parce qu'il reparaîtra sous la Régence, se confondra avec la théorie des corps intermédiaires de Montesquieu, se perpétuera dans la famille royale jusqu'à Louis XVI, qui aura été nourri de ses idées. En même temps, Vauban recommandait la dîme royale, c'est-à-dire un impôt de 10% sur tous les revenus, sans exemption pour personne. Son système d'un impôt unique, si souvent repris, était enfantin, mais la forme seule de son livre fut condamnée. Dès 1695, Louis XIV avait créé la capitation, qui frappait tous les Français sauf le roi et les tout petits contribuables, mais qui rencontra une vaste opposition, tant elle heurtait les habitudes et les intérêts. En 1710, fut institué l'impôt du dixième, qui ressemblait fort à la dîme de Vauban, et dont se rachetèrent aussitôt à qui mieux, par abonnement ou d'un seul coup, par forfait ou don gratuit, tous ceux qui le purent, tant était grande l'horreur des impôts réguliers. telle avait déjà été l'origine de bien des privilèges fiscaux. Car ce serait une erreur de croire que les privilégiés, sous l'Ancien Régime, fussent seulement les nobles et le clergé, qui avaient d'ailleurs les charges, celui-ci de l'assistance publique et les frais du culte, ceux-là le service militaire. Les privilégiés, c'étaient aussi les bourgeois, qui avaient acquis des offices, les habitants des villes franches ou de certaines provinces, en général nouvellement réunis, qui possédaient leurs statuts, leurs états, leurs libertés, et qu'on tenait à ménager spécialement. De ces droits, de ces privilèges, les parlements, corps intermédiaires, étaient les défenseurs attitrés. Lorsque, après Louis XIV, les cours souveraines sortiront de leur sommeil, leur résistance aux impôts sera acharnée. De là, sous Louis XV, ces luttes entre le pouvoir qui s'efforcera de restaurer les finances et les magistrats opposés au Xe et au XXe. Ainsi, les idées dans lesquelles Fénelon avait élevé le duc de Bourgogne allaient contre celles de Vauban. Elles mettaient l'obstacle sur la route. Il importe de noter dès à présent cette contradiction essentielle pour saisir le caractère des difficultés intérieures qui se poursuivront tout le long du XVIIIe siècle. C'est pour d'autres raisons que Louis XIV, à la fin de son règne, pensa que le retour des désordres qui en avaient rendu les débuts si incertains n'était pas impossible. Dans son esprit, ce qui était à redouter, c'était une nouvelle fronde. Une minorité viendrait après lui. Son fils et son petit-fils étaient morts. L'héritier, un enfant de 5 ans, qui peut essuyer bien des traverses, dit le roi à son lit de mort. Il dit aussi « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » Si Louis XIV n'a pas fondé l'État, il l'a laissé singulièrement plus fort. Il en avait discipliné les éléments turbulents. Les grands ne songeaient plus à de nouvelles ligues ni à de nouvelles frondes. Pendant 50 ans, les parlements n'avaient ni repoussé les édits ni combattu les ministres du pouvoir. Il n'y avait plus qu'une autorité en France. Les contemporains surent parfaitement reconnaître que la force de la nation française, ce qui lui avait permis de résister aux assauts de l'Europe, venait de là, tandis que le roi d'Angleterre devait compter avec sa chambre des communes, l'empereur avec la diète de Ratisbonne et avec l'indépendance des princes allemands garantie par les traités de Westphalie. Tout ne marchait pas aussi bien dans le royaume de France que l'avait rêvé Colbert, dont les vastes projets d'organisation n'avaient pu être réalisés qu'en partie, les grandes tâches extérieures s'étant mises en travers. Du moins la France avait l'ordre politique, sans lequel elle n'eût pas résisté à de si puissantes coalitions, ni résolu à son profit les questions d'Allemagne et d'Espagne. On a dit que Louis XIV n'avait laissé que les apparences de l'ordre, parce que, 3/4 siècle après sa mort, la Révolution éclatait. Ce qui est étonnant, c'est qu'après les 54 ans de calme de son règne, il y en a eu encore 75. Notre histoire moderne ne présente pas de plus longue période de tranquillité. C'est ainsi qu'on a pu passer par une minorité et une régence qui ne justifièrent qu'en partie les inquiétudes du vieux roi mourant. Voilà dans ce règne ce qui appartient à la haute politique. Nous avons laissé de côté tout ce qui est le domaine de la littérature et de l'anecdote. Et pourtant, Louis XIV a sa légende, inséparable de son histoire et de la nôtre. Versailles, la cour, les maîtresses du roi, la touchante Lavallière, l'altière Montespan, l'austère Maintenon, qui devint sa compagne légitime, sont encore un fond inépuisable pour le roman, le théâtre et la conversation. Tour à tour, si ce n'est en même temps, les Français ont admiré ou blâmé cette vie royale, commencée dans le succès et la gloire, achevée dans les deuils de famille et les revers. Ils ne sont pas lassés de s'en répéter les détails, partagés entre le respect et l'envie qu'inspirent les grands noms et les grandes fortunes. Cette curiosité n'est pas épuisée de nos jours, tant la France, à tous les égards, a vécu du siècle de Louis XIV, tant les imaginations ont été frappées par le roi Soleil. Versailles est resté un lieu historique, non seulement pour nous, mais pour l'Europe entière. Ce palais, dont la coûteuse construction arrachait des plaintes à Colbert, où Louis XIV se plaisait d'autant plus que les souvenirs de la Fronde lui avaient laissé une rancune contre Paris, a été le point que des millions d'hommes regardaient, l'endroit d'où partait une imitation presque générale. Versailles symbolise une civilisation, qui a été pendant de longues années la civilisation européenne. Notre avance sur les autres pays étant considérable et notre prestige politique aidant à répandre notre langue et nos arts. Les générations suivantes hériteront du capital matériel et moral qui a été amassé alors. La Révolution en héritera elle-même et trouvera encore une Europe qu'un homme du XVIIIe siècle, un étranger, l'Italien Caraccioli, appelait l'Europe française. Fin du chapitre 13.